إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue aujourd'hui ce séminaire sur les règles essentielles du Ramadan et principalement les règles du jeûne. Parmi les choses importantes à savoir que nous n'avons pas encore abordées, il y a le sens du mot as-siyam que l'on traduit en français par le jeûne. Donc dans la langue arabe, le jeûne, as-siyam, désigne le fait de s'abstenir d'une chose. Et dans la législation, c'est-à-dire d'un point de vue religieux, le jeûne est le fait de s'abstenir intentionnellement de boissons, de nourriture et de toute autre chose annulant le jeûne. Et ce, du lever véridique de l'aube, lors du fajr, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire al-maghrib. On voit donc à travers cette définition que d'un point de vue religieux, le jeûne repose sur deux piliers. Son premier pilier est l'intention, c'est-à-dire que le jeûneur s'abstienne de toute annulative du jeûne avec pour intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher de son Seigneur et d'obtenir son agrément et sa récompense. Et la preuve de ce pilier est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les œuvres ne valent que par les intentions ». Et chacun sera rétribué selon son intention. Donc le musulman, il ne doit pas jeûner avec pour intention, par exemple, de satisfaire ses parents, ou alors de faire comme ses amis, ou de faire comme sa famille. Mais il ne doit jeûner que pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa récompense. Et ceci, comme vous le savez, c'est une condition d'acceptation de l'ensemble de nos œuvres, qu'elles soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition est qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'intention, en ce qui concerne le jeûne de Ramadan, ainsi que tout autre jeûne qui est obligatoire, elle doit impérativement avoir lieu durant la nuit. C'est-à-dire que tu dois avoir l'intention de jeûner, ne serait-ce qu'un instant avant l'aube. Et il n'y a rien de particulier à prononcer. Tu ne dois dire aucune parole avec ta langue, ni même prononcer une parole dans ta tête. Car l'intention, qu'est-ce que c'est en réalité? L'intention, c'est la ferme volonté que tu as de jeûner. Donc le simple fait de te lever pour prendre le repas avant l'aube, cela est en soi une intention. Car si tu n'avais pas l'intention de jeûner, tu ne te serais pas levé à cette heure-ci pour manger. De la même manière, le fait de mettre ton réveil à une heure plutôt qu'habituellement, afin de pouvoir te lever pour prendre ce repas. Ceci montre que tu as l'intention de jeûner. Il n'y a donc aucune parole particulière à prononcer. Et également, il faut savoir qu'une seule intention suffit pour l'ensemble du mois. Car tout musulman qui commence le jeûne de Ramadan a l'intention de jeûner le mois en entier. Toutefois, si ton jeûne est interrompu en raison d'une excuse, que tu as dû t'arrêter de jeûner quelques jours, suite à la maladie ou autre, ou alors que tu es dans une situation où tu as le choix entre le fait de jeûner ou de ne pas jeûner, comme c'est le cas pour le voyageur. Car le voyageur, il se peut qu'il jeûne certains jours et qu'il rompe en d'autres jours. Donc dans cette situation, les jours où il souhaite jeûner, il devra impérativement avoir l'intention de jeûner durant la nuit, comme on a dit, ne serait-ce qu'en se levant plus tôt pour prendre le sahur, ceci est son intention. Et l'intention est donc le premier pilier du jeûne. Le deuxième pilier est le fait de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et la preuve de ce pilier est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ » Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc dans le cours d'aujourd'hui, on va voir quelques questions liées à ces choses qui annulent le jeûne, qui sont des choses desquels il incombe aux musulmans de s'abstenir lorsqu'ils jeûnent, afin de remplir ce deuxième pilier. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord, en guise d'introduction, faire une petite parenthèse au sujet de la pudeur. Il n'y a pas de doute que la pudeur, c'est une qualité louable par laquelle le croyant doit se parer. Celle-ci fait même partie des branches de la foi, comme l'a mentionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique. Toutefois, il faut savoir que cette pudeur, elle ne doit pas nous empêcher d'apprendre les règles essentielles de notre religion. Je dis cela ici, car il peut arriver dans certains cours que nous soyons amenés à aborder certaines questions, à parler de certains sujets qui relèvent du domaine de la vie privée ou du domaine intime de la personne. Mais ces questions, nous sommes contraints de les aborder, et ce, afin d'en connaître leur jugement religieux. Et comme a dit notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, quelles excellentes femmes étaient les femmes des Ansar. La pudeur ne les a pas empêchées de s'instruire au sujet de leur religion. C'est-à-dire que celles-ci n'étaient pas gênées par le fait d'interroger au sujet de certaines choses intimes afin d'en connaître le jugement religieux. Et ce, car ceci fait partie de la vérité et de la religion que l'on se doit tous d'apprendre. Et celui qui est gêné par cela, il fait alors preuve d'une pudeur qui n'est pas louable. Car cette pudeur, elle va l'empêcher d'apprendre sa religion. C'est pour cela qu'on rapporte cette parole de certains salafs, rahimahumullah ta'ala, la science ne peut pas être apprise par celui qui manifeste de l'orgueil ou celui qui manifeste de la pudeur. Et ce qui est visé ici par la pudeur, c'est la pudeur, comme on a dit, qui va empêcher la personne de s'instruire au sujet de sa religion. Donc après cette petite parenthèse, revenons maintenant au sujet de notre assise qui, comme on a dit, concerne les annulatifs du jeûne que nous allons énumérer et expliquer, incha'Allah ta'ala. Le premier annulatif, c'est le coït, c'est-à-dire les rapports intimes. Et celui-ci est le pire des annulatifs, ainsi que le plus grave en termes de péché. Si un jeûneur a des rapports charnels, c'est-à-dire que les deux membres se joignent, son jeûne est alors annulé. Et si ceci a lieu durant une journée de Ramadan, et que le jeûne est obligatoire pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'excuse lui permettant de rompre, comme le voyage ou la maladie, alors suite à cela, il lui incombera deux choses. La première est qu'il devra rattraper ce jour. Et la deuxième, c'est qu'il devra accomplir une expiation. Et cette expiation, elle consiste en quoi? Tout d'abord, il lui incombe d'affranchir un esclave croyant. Et s'il n'en trouve pas, il n'y a pas d'esclave à affranchir, alors il passe à la deuxième chose qui est de jeûner 2 mois consécutifs. C'est-à-dire 2 mois complets, sans aucune interruption. Sauf pour une excuse légiférée, comme par exemple la maladie ou un voyage dont l'objectif n'est pas de rechercher la rupture de ce jeûne. Et s'il interrompt son jeûne sans aucune excuse, ne serait-ce qu'un seul jour, alors il sera obligatoire pour lui de recommencer son jeûne dès le début. Et ce, afin d'accomplir les 2 mois de façon consécutive. Et si celui-ci n'est pas capable de jeûner 2 mois consécutifs, il devra alors nourrir 60 pauvres. Telle est donc l'expiation de celui qui commet cette transgression gravissime qui est le coït durant une journée de Ramadan. La preuve à ce sujet est ce qu'ont rapporté les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint et dit « Ô messager d'Allah, j'ai péri. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui alors dit « Qu'as-tu ? » L'homme répondit « J'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûne. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Trouves-tu un esclave que tu pourrais affranchir ?» L'homme répondit qu'il n'en trouvait pas. Il lui dit alors « Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs ?» L'homme répondit qu'il ne pouvait pas. Il lui dit alors « Trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres ?» Et l'homme lui répondit qu'il ne trouvait pas de quoi nourrir 60 pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta alors ainsi avec ses compagnons. Puis quelqu'un vint et lui apporta un panier de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Où est le questionneur ?» Il répondit « Je suis là ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Prends cela et donne-le en aumône. » C'est-à-dire, prends ce panier de dattes et va le donner en aumône en guise d'expiation. L'homme dit alors, est-ce au profit de plus pauvre que moi, ô messager d'Allah? Car je jure par Allah qu'il n'y a pas entre ces montagnes, c'est-à-dire entre les montagnes qui entourent la ville de Médine, de famille plus pauvre que la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à rire au point de laisser apparaître ses canines. Puis il dit à cet homme, nourrissant ta famille. Quoi qu'il en soit, on voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à cet homme la manière d'expier ce péché, qui est tout d'abord, comme on a dit, d'affranchir un esclave croyant. S'il ne peut pas, de jeûner 2 mois consécutifs. S'il n'en a pas les capacités, alors de nourrir 60 pauvres. Ceci est donc le premier annulatif du jeûne qui, comme on a dit, est le plus grave. Le deuxième annulatif est de faire couler volontairement le liquide séminal, al-mani en arabe. Et ce que ce soit en raison d'embrassades, de caresses, de pensées ou autre chose semblable, comme en causant sa sortie avec sa main ou autre. Et ceci annule le jeûne, car cela fait partie des désirs dont il est obligatoire pour le jeûneur de s'éloigner. Comme il est venu dans le hadith al-Qudsi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du jeûneur, selon la traduction des sens rapprochés, « Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. » Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. On voit donc dans celui-ci qu'il incombe au jeûneur de s'écarter de ses désirs, et ce, en recherchant en cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux embrassades ou aux caresses qui n'entraînent pas la coulée du liquide, c'est-à-dire le liquide séminal, alors ceci n'annule pas le jeûne. En effet, il est rapporté dans les 2 recueils de hadith authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses et les touchait lorsqu'il jeûnait. Toutefois, il y a ici un point important à souligner. Et c'est un point qu'a souligné notre mère, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et ce, lorsqu'elle a dit, dans le même hadith, au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs. » C'est-à-dire que si le jeûneur sait que cela va éveiller ses désirs, et qu'il n'est pas apte à contrôler ses désirs, alors il doit s'éloigner de cela afin de préserver son jeûne de toute chose qui pourrait le corrompre et l'annuler. Et certaines personnes se demandent si ceci cause la sortie du liquide préséminal, qui est appelé en arabe al-madi. Alors il faut savoir que les savants ont divergé quant à la validité du jeûne dans cette situation. Certains ont dit que la sortie du liquide préséminal dans cette situation est un des annulatifs du jeûne. Toutefois, l'avis prépondérant est que cela n'annule pas le jeûne, car il n'y a pas de preuve à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, le musulman, il doit prendre garde à cela et s'éloigner de ces choses s'il sait qu'il ne contrôle pas sa personne. Car même si ceci n'annule pas son jeûne, il n'y a pas de doute que ceci en diminuera de sa récompense. Enfin, concernant cet annulatif, si le liquide séminal sort alors que le jeûneur dort, suite à un rêve par exemple, alors son jeûne n'est pas annulé, même si cela a lieu en pleine journée. Et ce car cela est indépendant de sa propre volonté. Et on a vu hier dans le hadith que la plume est levée pour 3, et parmi eux, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc, ceci n'influe pas sur la validité de son jeûne. Et de la même manière, si cela arrive sans aucun plaisir, comme cela peut arriver à certaines personnes en cas de maladie, alors son jeûne n'est pas annulé, incha'Allah ta'ala. Le troisième annulatif est le fait de boire ou de manger volontairement. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ » Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc ce verset nous démontre qu'il n'est pas permis aux jeûneurs de manger et de boire à partir du lever de l'aube, et ce, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au moment où vient la nuit. Et entre dans cela tout ce qui atteint l'estomac, des gouttes nasales par exemple. Même si elles ne passent pas par la bouche, elles annulent le jeûne. Et de la même manière, les choses qui ont le même jugement que la nourriture et la boisson, comme par exemple des perfusions ou des injections qui sont nutritives, Celles-ci, elles annulent le jeûne, car elles vont remplacer la boisson et la nourriture. Elles vont donner à la personne les apports dont il a besoin. Donc, son jeûne sera invalidé à cause de cela. Mais si la personne est malade et qu'elle est dans la nécessité d'y avoir recours, alors il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala, et il rattrapera son jeûne, comme on l'a vu hier, selon les différents cas dans lesquels entre le malade. Quant aux injections qui ne sont pas nutritives, comme par exemple un vaccin, ou alors les injections d'insuline, alors celles-ci n'annulent pas le jeûne. Malgré cela, les savants ont mentionné que s'il est possible de les faire la nuit, alors cela est préférable. Le quatrième annulatif est la hijama. La hijama, comme vous le savez, c'est cette opération qui consiste à extraire le sang de dessous la peau, mais non pas des veines. Donc lorsque le jeûneur subit une hijama, son jeûne est annulé d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui pratique la hijama et celui sur qui elle est pratiquée ont rompu, c'est-à-dire ont rompu leur jeûne. On voit donc d'après ce hadith que la hijama, elle annule aussi le jeûne de celui qui la pratique, pas seulement de celui sur qui elle est pratiquée. Pourquoi? La réponse est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijama était pratiquée avec des ustensiles de manière à ce que celui qui la pratique devait prendre un tuyau afin d'aspirer le sang de la personne, afin de le faire remonter. Donc il y avait en cela des risques que le sang atteigne sa bouche et qu'il atteigne ensuite son estomac. C'est donc pour cela que ceci annule le jeûne de celui qui pratique la hijama. Donc une fois qu'on a compris la raison de ce jugement, on comprend que si celui qui pratique la hijama utilise des ustensiles séparés, comme c'est le cas aujourd'hui, dans la majorité des cas, où les gens utilisent les ventouses pour pratiquer la hijama. Alors dans cette situation, il n'a pas besoin d'aspirer le sang. Donc s'il a besoin de pratiquer la hijama à un malade qui est dans le besoin de cette hijama, alors son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Et cela n'invalidera que le jeûne de la personne sur qui la hijama est pratiquée. Toutefois, il faut savoir que certains savants considèrent que ce hadith n'est pas authentique. De ce fait, ils ne considèrent pas la hijama comme un annulatif du jeûne. Malgré cela, on sait que celui qui subit une hijama, il peut être affaibli par celle-ci. Et suite à celle-ci, il peut avoir le besoin de manger ou de boire. Il y a même certaines personnes après la hijama qui font des malaises. Donc, afin d'éviter cela et de préserver son jeûne, on dira alors qu'il est quand même préférable et meilleur de repousser au soir la hijama, quelle que soit la situation. Et ce, afin de préserver le jeûne de la personne. Et parmi les choses similaires à la hijama, les savants ont mentionné le fait d'extraire le sang par incision, ou alors de l'extraire dans le but de le donner. On ne va donc pas faire de don du sang en journée de Ramadan, sauf en cas de force majeure, s'il y a un malade qui a besoin de sang en urgence, et qu'il faut absolument que la personne lui donne de son sang et qu'elle est en train de jeûner. Alors dans ce cas, la personne est excusée, et elle rattrapera ce jour, incha'Allah ta'ala. Quant à l'écoulement du sang, suite à une blessure, suite par exemple au déracinement d'une dent, ou alors le fait de saigner du nez, et ainsi de suite, cela n'est pas nuisible, incha'Allah ta'ala, car cela n'est pas une hijama, et n'est pas similaire à la hijama. Donc ce n'est pas tout sang qui sort de la personne qui va annuler son jeûne. Car il y a des personnes qui exagèrent à ce sujet, qui pensent que le simple fait de se gratter sur une blessure, et que la personne saigne par la suite, cela va annuler son jeûne. En aucun cas, ceci n'annule le jeûne, et il n'y a pas de nuisance en cela, incha'Allah ta'ala. Le cinquième annulatif est le fait de vomir volontairement. Donc, de faire sortir volontairement par la bouche ce qui se trouve dans l'estomac comme nourriture et boisson. Si cela est fait volontairement, le jeûne est annulé. Mais si la personne a envie de vomir et que ceci prend le dessus sur elle, c'est-à-dire que cela sort indépendamment de sa propre volonté, qu'elle ne met pas les doigts dans sa bouche, qu'elle n'appuie pas sur son ventre afin de se faire volontairement vomir. Mais cela vient indépendamment de sa volonté. Alors ceci n'a aucune incidence sur son jeûne, incha'Allah ta'ala. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Celui sur qui le vomissement a pris le dessus n'a aucun rattrapage à faire. » C'est-à-dire que son jeûne est valide. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Quant à celui qui a vomi volontairement, alors qu'il rattrape. » C'est-à-dire qu'il rattrape ce jour de jeûne, car son jeûne est annulé. Donc si la personne fait volontairement des choses qui vont provoquer le vomissement, comme on a dit, le fait d'appuyer sur son estomac, ou alors de mettre ses doigts dans sa bouche, ou alors de sentir ou regarder des choses qui pourraient le faire vomir. Alors dans ce cas-là, son jeûne est annulé. Mais si cela est involontaire, cela ne lui cause aucun tort, inshallah ta'ala, et il peut continuer de jeûner. Le sixième annulatif est la sortie du sang des menstrues et des lochis. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « N'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas ?» Donc dès que la femme voit le sang des menstrues ou des lochis, alors son jeûne est rompu et le rattrapage est obligatoire pour elle. Comme on l'a dit hier, même si cela n'a lieu que quelques minutes avant le coucher du soleil, à partir du moment où le sang est sorti, le jeûne est annulé. Par contre, si elle ressent simplement certaines douleurs qu'elle ressent à cause de ses menstrues, que ces douleurs ont lieu avant le coucher du soleil, mais que le sang ne sort qu'après le coucher du soleil, alors son jeûne est valide, inshallah ta'ala. Donc ce qui est pris en considération, c'est le fait qu'elle voit la sortie du sang. Tant qu'il n'est pas sorti, son jeûne est valide, bi'inillahi ta'ala. Ceci sont donc les annulatifs du jeûne, qui sont interdits aux jeûneurs durant les journées de Ramadan. Et il est important de savoir que l'ensemble de ces annulatifs, à l'exception du sixième, qui n'est pas contrôlable, il n'annule le jeûne qu'à trois conditions. Et ces trois conditions, ce sont que le jeûneur en ait connaissance, qu'il ne soit pas ignorant. La deuxième condition est qu'il s'en rappelle, qu'il soit conscient, qu'il ne le fasse pas par oubli. Et la troisième condition est qu'il le fasse de sa propre volonté, c'est-à-dire qu'il ne soit pas contraint. Et le jeûne ne peut être annulé que sous ces trois conditions. On a donc dit la première, c'est qu'il en ait connaissance. C'est-à-dire que s'il est ignorant, son jeûne n'est pas annulé. Et ce qu'il soit ignorant du jugement religieux, comme le fait qu'il pense, par exemple, que cette chose n'annule pas le jeûne. Il ne sait pas, par exemple, que la hijama est un des annulatifs du jeûne, alors il se fait faire une hijama. Dans ce cas-là, on dira que son jeûne est tout de même valide. Pourquoi ? Car il était ignorant de ce jugement. Également, s'il est ignorant du temps, c'est-à-dire qu'il pense que l'aube ne s'est pas levée. Il mange alors qu'en réalité l'aube s'est levée. Ou bien inversement, en fin de journée, il pense que le soleil s'est couché. Puis il mange alors qu'en réalité le soleil ne s'est pas couché. Alors dans ces situations, son jeûne n'est pas annulé, inshallah ta'ala. Quelle est la preuve ? La preuve à ce sujet est que lorsqu'est descendue la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Addi ibn Hatim, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon, à l'écoute de ce verset, il a pris deux fils, un fil blanc et un fil noir, et il les a mis sous son oreiller, et il les regardait, et n'a commencé à jeûner que lorsqu'il a réussi à distinguer entre le fil blanc et le fil noir. Après cela, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il avait fait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné que ce qui est visé par ce verset, c'est la lueur du jour, qui est le fil blanc, et l'obscurité de la nuit. C'est-à-dire que c'est le moment du lever de l'aube lorsqu'on distingue ce trait blanc dans l'horizon. Donc ce compagnon, il a commencé son jeûne qu'après le lever de l'aube en réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de rattraper ce jour. Pourquoi ? Car il était ignorant. Donc ceci est une preuve que si la personne, par erreur, qu'elle n'a pas été négligente, qu'elle ignore l'heure, qu'elle pense que ce n'est pas encore l'aube, qu'elle mange et puis qu'après il s'avère que l'aube était levée, alors son jeûne est valide, inshallah ta'ala. Et ce hadith que l'on vient de mentionner, il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et également parmi les preuves, il y a ce que rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullah. D'après Asma, la fille de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhuma, elle dit qu'un jour nuageux, un jour où le ciel était couvert, ils ont rompu le jeûne en pensant que le soleil s'était couché. Puis après cela, après avoir rompu leur jeûne, ils ont aperçu le soleil. C'est-à-dire qu'ils ont rompu leur jeûne en avance, avant le coucher du soleil. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour. Et ce, car comme on a dit, ils étaient ignorants du temps. Ils pensaient que le soleil était couché. Toutefois, il est bon de souligner que dans cette situation, une fois que la personne s'aperçoit que le soleil n'est pas encore couché, pensait que c'était le maghreb, elle commence à manger ou à boire, puis se rend compte en fait que le soleil est encore là. Alors, la personne doit reprendre immédiatement son jeûne. Et si elle continue de manger ou de boire après s'être aperçue que le soleil n'était pas couché, alors à ce moment-là, le jeûne est annulé. Et de la même manière pour le matin. Si une personne se trompe, pense que l'aube n'est pas levée, que c'est encore la nuit, qu'elle commence à manger puis que soudain coup elle se rend compte que finalement l'aube est levée, alors elle doit immédiatement s'arrêter de boire et de manger. Ceci est donc la première condition, que la personne ait connaissance, qu'elle ne soit pas ignorante, ni du jugement religieux, ni du temps. La deuxième condition est qu'elle s'en rappelle, qu'elle soit consciente de ce qu'elle fait. Donc si une personne commet un des annulatifs par oubli, son jeûne est valide et elle n'a pas à le rattraper. Et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana » Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et l'imam muslim rahimahullah ta'ala rapporte dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Je l'ai certes fait ». C'est-à-dire qu'il a exaucé cette invocation. Donc ce que le musulman commet par oubli, ou ce qu'il commet par erreur, ceci lui est pardonné. Et il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque mange ou boit par oubli, alors qu'il jeûne, c'est-à-dire qu'il continue de jeûner, c'est seulement Allah qui l'a nourri et abreuvé. » On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a ordonné de continuer de jeûner. Donc ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve la validité de ce jeûne. Car la personne l'a fait par oubli. Cela peut arriver, notamment, durant les premiers jours du mois. La personne se rend dans la journée, par exemple dans la cuisine, voit une bouteille d'eau, commence à l'ouvrir, et peut même boire de cette bouteille. Ou alors prendre un aliment et le manger. Si cela est fait par oubli, alors la personne, elle peut continuer de jeûner, son jeûne est valide, inshallah ta'ala. Toutefois, il est obligatoire pour elle de s'abstenir dès qu'elle s'en souvient. C'est-à-dire que dès qu'elle se souvient qu'elle est en train de jeûner, elle doit immédiatement s'abstenir. Ou alors dès qu'on l'avertit. Une personne la voit et l'avertit, lui dit « tu es en train de jeûner ». Elle doit immédiatement s'arrêter. Et s'il lui reste quelque chose dans sa bouche, il lui incombe de cracher ce qui est dans sa bouche. Car il n'est plus excusé à partir du moment où il se souvient. Donc à partir de là, si tu vois quelqu'un en train de boire ou de manger, alors que tu sais qu'il jeûne, il est obligatoire pour toi de lui rappeler et de l'avertir qu'il est en train de jeûner. Ne pas te dire « c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé, je le laisse, il est excusé ». Car toi, tu n'es pas excusé. Il est obligatoire pour toi de l'avertir. Et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » « Entraidez-vous dans le bien et la piété ». Ceci est donc la deuxième condition, que la personne se rappelle, qu'elle soit consciente, qu'elle ne fasse pas cela par oubli. La troisième condition est qu'elle le fasse de sa propre volonté. C'est-à-dire que ce n'est ni sous la contrainte, ni involontairement. Car si cela est fait sous la contrainte, ou que cela est fait involontairement, alors le jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. À titre d'exemple, en ce qui concerne la contrainte, il se peut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'un musulman soit par exemple prisonnier auprès de mécréants, et qu'il le contraigne à manger durant une journée de Ramadan. Alors dans ce cas-là, son jeûne est valide. On parle bien sûr d'une réelle contrainte, pas simplement d'une petite peur ou de simples menaces, mais une réelle contrainte. Alors dans ce cas-là, il est excusé, incha'Allah ta'ala. Et de la même manière, si une personne avale quelque chose involontairement, par exemple, lorsque tu fais tes ablutions, au moment de rincer ta bouche et ton nez, tu avales involontairement une goutte d'eau, alors ceci ne te nuit pas, incha'Allah ta'ala, et ton jeûne est valide, à condition bien sûr, comme on a dit, que cela soit involontaire, mais pas par négligence. Personne fait ses ablutions involontairement, il y a quelques gouttes d'eau qui sont avalées. Dans ce cas-là, cela ne nuit pas, incha'Allah ta'ala. Donc ceci sont les trois conditions qui doivent impérativement être réunies pour que le jeûne soit annulé. Pour l'ensemble des annulatifs que l'on a mentionnés, que la personne en ait connaissance, qu'elle ne soit pas ignorante, que la personne s'en rappelle, que cela ne soit pas par oubli, et que la personne le fasse de sa propre volonté, que cela ne soit pas sous la contrainte, ni involontairement. Enfin, pour terminer cette assise, j'aimerais rappeler certaines choses qui sont permises et qui n'annulent pas le jeûne, contrairement à ce que pensent nombre de personnes. Parmi ces choses, il y a le fait qu'il est permis pour le jeûneur de se soigner avec des gouttes pour les yeux ou des gouttes pour les oreilles. Et ceci n'annule pas le jeûne. Même si lorsque tu mets des gouttes dans tes yeux, tu en ressens le goût, comme c'est le cas de certaines personnes, alors ceci n'annule pas le jeûne. Car cela n'est ni de la nourriture, ni de la boisson, et cela n'y ressemble pas. De la même manière, il est permis de se soigner durant le jeûne avec des suppositoires, car ceux-ci ne rentrent pas dans les choses annulant le jeûne. Également, il est permis, durant le jeûne, de nettoyer une blessure avec des produits désinfectants ou autre chose semblable, car ceci ne fait pas partie des choses annulant le jeûne. Parmi les choses qui sont permises également au jeûneur, et en particulier pour celui ou pour celle qui cuisine, il y a le fait de goûter la nourriture, et ce sans l'avaler, et seulement en cas de besoin, afin par exemple de vérifier le bon dosage de certains ingrédients. Il n'y a pas de mal en cela. Ceci n'annule pas le jeûne à partir du moment où la personne goûte seulement sans avaler cette nourriture. Il est aussi permis durant le jeûne de sentir le parfum. Tu peux donc te parfumer durant le jeûne. Et si tu rentres dans une pièce et que celle-ci est parfumée, il n'y a pas de mal à ce que tu sentes cette odeur. Cela n'annule pas le jeûne. Et même l'odeur de l'encens. J'ai bien dit l'odeur de l'encens. Par contre, en ce qui concerne sa fumée, la fumée de l'encens, il faut prendre garde à ne pas l'inhaler, car ceci pourrait annuler le jeûne. Le fait d'inhaler volontairement la fumée de l'encens. Quant au simple fait de sentir son odeur, alors ceci n'annule pas le jeûne, inshallah ta'ala. Également durant le jeûne, il est permis pour toi d'utiliser le siwak, et ce à tout moment de la journée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, « Si je ne craignais pas d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière. » Ce hadith, il nous prouve que le siwak, il est fortement recommandé pour chaque prière. Donc, entre dans ces prières les prières qui sont accomplies durant le jeûne. Et Amir ibn Rabi'a, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser le siwak alors qu'il jeûnait d'une façon que je ne peux dénombrer. » C'est-à-dire qu'il utilisait souvent le siwak, même durant le jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes pourraient se demander, qu'en est-il de la brosse à dents et du dentifrice? Les gens de science ont mentionné que ceci n'annule pas le jeûne à condition que rien ne soit avalé. C'est-à-dire que la personne fasse bien attention de ne rien avaler de cela. Toutefois, les gens de science ont mentionné qu'il est préférable de l'éviter. Et ce car le dentifrice a un effet fort dans la bouche. Et de ce fait, il se peut qu'il atteigne l'estomac. Il est donc préférable d'éviter cela et de se brosser les dents avec le dentifrice avant l'aube et après le coucher du soleil. Le reste du temps, tu peux utiliser le siwak ou alors utiliser la brosse à dents sans le dentifrice. Et ce car, comme on a dit, le dentifrice, il est très fort. Il se peut qu'il atteigne le ventre avec la salive. Et le siwak est suffisant et permet de s'en passer, incha'Allah ta'ala. Enfin, parmi les choses permises pour le jeûneur, il y a le fait de se rafraîchir avec de l'eau pour mieux supporter la chaleur et la soif. Les imams Malik et Abu Dawud, rahimahum Allah ta'ala, rapportent qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu verser de l'eau sur sa tête à cause de la soif ou de la chaleur alors qu'il jeûnait. C'est-à-dire qu'il se rafraîchissait en se versant de l'eau sur sa tête. Ce car il y a certaines personnes qui pensent que durant la journée de jeûne, il n'est pas permis par exemple de se doucher. Ceci est permis et il n'y a aucun mal, inshallah ta'ala. D'autant plus si cela est nécessaire afin de se rafraîchir à cause de la chaleur. Et Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, mouillait un vêtement qu'il mettait sur lui alors qu'il jeûnait, afin de se rafraîchir. Et Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, avait une sorte de bassin dans lequel il descendait lorsqu'il faisait chaud alors qu'il jeûnait, c'est-à-dire qu'il se baignait dans ce bassin. Et Al-Hassan, rahimahullahu ta'ala, a dit, « Il n'y a pas de mal à ce que le jeûneur se rince la bouche pour se rafraîchir. » C'est-à-dire que si la personne, à cause des fortes chaleurs, a la bouche extrêmement sèche, au point de ne plus avoir de salive, alors il lui est permis de se rincer la bouche avec de l'eau, en prenant garde de ne rien avaler de celle-ci. Mais tu te rinces la bouche comme pour les ablutions, sans exagération, simplement dans le but de l'humidifier et de la rincer, car ceci va aider le jeûneur à patienter. Mais il doit, comme on a dit, prendre garde de ne rien avaler de cela. Donc comme vous le voyez, toutes ces choses qui sont permises, elles nous montrent l'importance pour nous de sans cesse nous instruire au sujet de notre religion, de sans cesse faire des efforts dans l'étude de la science, afin de distinguer entre ce qui nous est permis et ce qui nous est interdit, et surtout à prendre garde à ne pas parler au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science et sans clairvoyance. Donc l'étude de la science, Comme on a dit, c'est une chose indispensable pour chaque musulman, et ce afin de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. On a donc terminé pour aujourd'hui, et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, un rappel important concernant le comportement que doit adopter le jeûneur durant le mois de Ramadan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.